Bonsoir chers auditeurs du mardi soir. Nous allons reprendre nos conversations politico-économiques, éventuellement religieuses. Je sais que vous suivez ça avec beaucoup d'intérêt et de passion. Et nous commençons comme d'habitude par appeler le pasteur Blanchard, notre ami le pasteur Blanchard, qui a maintenant un certain âge et qui a toute une histoire et qui voudrait nous raconter ses premières rencontres avec Jean-Marie Le Pen. Vous êtes là ?
Voilà, c'est ça.
Eh bien, alors, bonsoir, pasteur.
Bonsoir, mon cher Hilaire, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Vous savez, notre maître à tous du nationalisme français, Maurice Barrès, La Terre et les Morts, avait mis en exergue de son grand livre « La colline inspirée » la citation suivante « Il y a des lieux où souffle l'esprit ».
Oui, il y a
et
des lieux
moi
où
aussi,
souffle
j'ai connu
l'esprit.
Un de ces lieux.
Oui.
Alors bien sûr, ce n'est pas la colline de Sion, Vaudemont, que j'ai
connu. Il y a des
aussi.
Lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux imprégnés, baignés de lumière, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion religieuse. C'est comme ça que commence...
Non, oui. Vous connaissez bien Barrès.
Oui, je connais bien Barrès, et encore mieux Maurras.
Eh bien, voilà, si j'ai voulu citer Barrès, un de mes maîtres à penser, c'est que moi aussi j'ai connu un de ces lieux, les bureaux de Jean-Marie au Parc Montretout, à Saint-Cloud. Alors le Parc Montretout date de l'époque de Napoléon III, c'est des grands pavillons. C'est un parc qui surmonte Montretout, pour ceux qui connaissent. Vous passez devant la gare et puis il y a une entrée. Et là, on voit tout le plan de Paris et toute la région parce que ça culmine assez haut.
Oui,
et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. Nul ne peut s'imaginer de nos jours ce qu'était ce parc Montretout pour les gens du Front National. Montretout, c'était l'âme. Montretout, c'était le lieu où Jean-Marie dirigeait avec une main d'expert, de chef d'orchestre, le Front National. Tout partait de Montretout, tout revenait à Montretout. Il était le grand maître de cette musique qui a enflammé la France, qui est le Front National. Mais aussi, il a aussi été celui qui a géré les tempêtes. Vous savez que pour ses 90 ans, il avait envoyé un faire-part où il se mettait en scène en corsaire avec un perroquet sur l'épaule et de longues vues à la main pour inviter les gens à venir à Montretout fêter ses 90 ans. Ça a été une des dernières grandes fêtes de la vie de Jean-Marie Le Pen. Il y en a eu quelques-unes après, mais la grande, grande fête où on s'est tous retrouvés, c'est celle-là en
2000.
Bon. Alors, voilà ce qu'était Montretout. Ce lieu, je l'ai bien connu. Je ne compte pas les fois où je m'y suis rendu. Tout a commencé alors que j'étais pasteur à l'église luthérienne Saint-Sauveur à Paris dans le 15e et qu'un de mes paroissiens m'a proposé de tenir un stand de Bible au BBR.
Ah oui.
Cette année-là, la Fédération protestante en avait un à la fête de l'humanité. Et donc, nous avons tenu un stand de livres. Donc, il est né en 1928, donc c'était en 2018.
Voilà,
j'ai retrouvé la date.
C'est ça.
En 2018, on était tous à Montretout autour de lui et on l'a accompagné pour cette grande, grande fête. Et donc là, je vais découvrir Montretout puisque à cette fête des BBR, Samuel Maréchal, qui était fils de pasteur pentecôtiste, est venu me voir et m'a dit « Voudrez-vous connaître Madame Le Pen qui est protestante et Jean-Marie Le Pen ?» Et je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je vais être de ceux qui auront eu la chance de monter à Montretout et de pouvoir rencontrer le grand timonier. Voilà comment les choses ont commencé. Voilà comment je me suis retrouvé un jour invité à monter dans les bureaux de Montretout où je suis resté près de 3 heures à parler avec Jean-Marie Le Pen, de choses et d'autres, et surtout de social. Et j'ai pu voir qu'il avait une grande attention, parce que je suis un grand bavard, et il a été très très gentil avec moi. À la fin donc de l'entretien, donc quand je suis sorti du parc de Montretout, il y avait Samuel Maréchal qui m'attendait, qui m'a dit « Écoutez, les choses sont très très bien passées. Jean-Marie était content de cette rencontre et il espère qu'il y aura une suite. » Alors, effectivement, il va y avoir une suite et j'aurai l'occasion d'en parler parce que il m'appellera après à prendre des responsabilités dans le social et je monterai les soupes à Saint-Lazare qui auront 30 ans cette année au mois de novembre.
Oui.
Donc, novembre 96. Il y aura 30 ans que j'ai lancé les soupes à Saint-Lazare. Alors, voilà, Jean-Marie Le Pen, bien écoutez, je l'ai bien connu. Effectivement, j'ai eu la chance pendant des années et des années de le fréquenter, d'être un de ses proches, et j'aurais eu la chance de fréquenter un grand homme. Avec ses qualités et ses défauts, je ne suis pas de ceux qui sont dans une attitude de génuflexion, dès qu'on parle de Le Pen, tout est parfait. Non, c'était un homme, avec ses qualités, ses défauts, mais c'était un grand homme. Il avait une force en lui extraordinaire. Il avait une force qui l'a fait tenir pendant des décades et des décades, seul contre tous. Et il a pu mener une œuvre remarquable de fédérer toutes nos forces nationales jusqu'aux protestants, vous vous rendez compte?
Oui.
D'ailleurs, il avait dit à Janie, quand je l'ai rencontré, qu'il était contre qu'il y ait des protestants parce que pour lui, c'était un peu la diversité de la France qui s'exprimait à travers la,
c'est ça. Oui.
Le protestantisme et qui montrait qu'on n'était pas seul, mais qu'il y avait diverses familles spirituelles, comme l'a dit Barrès d'ailleurs, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle les diverses familles spirituelles de la France, où il fait l'apologie de toutes les familles spirituelles au moment de la guerre de 14-18, ces familles qui ont donné leur temps et qui ont donné leur vie pour notre pays et pour le sauver. Alors, oui, voilà ce qui était Jean-Marie Le Pen, un corsaire, avec son perroquet sur l'épaule et sa longue vue. Alors, on m'a posé la question, est-ce que c'est un tableau qui a été exposé? Non, il y avait le grand tableau à l'entrée du parc Montretout. Et si j'en parle, c'est parce que Montretout a été vendu. Et ça m'a fait quelque chose, je me suis dit, il faut en parler, parce que ça montre quelque chose qui est au cœur de l'humanité, c'est que tout passe, rien ne reste. Et que, comme dit la Bible, vanité des vanités, tout est vanité, sauf une seule chose, celle qui nous relie au ciel et qui nous ouvre sur les portes de l'éternité. Alors, n'oublions pas Jean-Marie Le Pen, n'oublions pas qu'il fut un grand homme, mais n'oublions pas non plus qu'un jour, nous aussi, nous partirons, nous aussi, nous quitterons cette terre, nous aussi, plus que lui d'ailleurs, nous serons complètement oubliés, mais si tout passe, tout lasse, une seule chose reste, le Seigneur Jésus-Christ.
Merci.
Alors cette fête de 2018 a été un grand moment de partage. Vous pouvez aller visiter mes blogs sur Google, et ainsi que ma page Google. Et je vous remercie de votre invitation et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
Merci, Pasteur Blanchard. Merci. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Alors, maintenant, nous allons écouter Pierre Lours, qui doit être également au bout du fil, dans son Cantal. Il est là ou il n'est pas là? Ah, il n'est pas là. Il m'avait dit qu'il serait là, pourtant. Allô? Vous pouvez l'appeler? Appelez-le. Alors, je vais vous donner le numéro de...
Qu'est-ce que vous voulez que je...
Jean, vous avez le numéro de
Non, non, mais on enchaîne ou...
Oui, on va enchaîner.
On va enchaîner.
Tout de suite.
Juste ne donnez pas son numéro à la radio. Ça fait un peu long. Je peux enchaîner, puis Pierre-Lose nous récupérera. Nous récupérera ensuite. Alors, le titre qui avait presque été demandé, sinon imposé par Hilaire, c'est donc Trump qui perd, Trump qui gagne. Hein, et c'est un point d'actualité sur l'actualité internationale, donc notamment le
c'est
conflit
le téléphone de Pierre-Lours.
Au Proche-Orient, mais pas uniquement, puisque ce serait intéressant de voir ce qui se passe aussi dans le précaré américain, donc dans le continent américain. Voilà quel va être mon propos. Alors, je ne dois pas trop le dire à l'antenne parce que c'est dangereux, mais quand même, mon métier de base est d'être professeur. Donc, ça fait plusieurs semaines que je surveille le baccalauréat, ce qui est une activité, sinon toujours stimulante, hein, au moins
vous
qui...
Vous allez lui dire qu'elle doit avoir le téléphone de Pierre.
Au moins qui prend du temps. Et comme surveiller... Hein,
Il s'appelle Fabrice Fadet.
Et comme surveiller, c'est toujours un petit peu long, cela permet néanmoins de lire, et je me suis mis, c'est l'air du temps, puisque Marc Bloch vient d'entrer en Panthéon, je me suis mis à lire son plus célèbre ouvrage, qui était sa thèse, qui est Les rois thaumaturges, que j'avais lu en préparant, je pense,
un livre excellent.
Et un livre excellent.
Voilà, excellent, je... et
c'est très intéressant.
Il ne fait pas du tout de Marc Bloch, l'historien gauchard qu'on prétend...
Alors oui, donc je pense que je ferai peut-être un article pour Politique Magazine
ou
pour la NRU, le vrai Marc Bloch, que ses petits-enfants, les petits-enfants trahissent toujours, ont toujours une certaine idée à eux. Donc, il est modérément européen et modérément socialiste, à mon avis,
oui.
Et c'est un euphémisme.
Et
c'est
il est
un,
très proche
c'est un
de Jacques Bainville pour ce qui est de la pensée.
Hein. C'est un Français. Et plus je pense que, je vois comme le titre d'article, ça pourrait être les rois thaumaturges. Hein. Marc Bloch, c'est un peu l'impensée monarchique et l'impensée nationale au Panthéon.
Bien
donc
sûr.
Il est beaucoup moins platement républicain qu'il n'y
Absolument.
Paraît. Hein.
Tout à fait.
Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et quand plus je relis, donc 20 ans après, en fait, les rois thaumaturges, plus qu'on voit que la question que se pose Marc Bloch, mais qui se pose d'ailleurs dans beaucoup d'autres de ses ouvrages, c'est d'où vient la nation française, hein. Et ce n'est pas incompatible, surtout dans les rois thaumaturges, avec la monarchie. D'où vient et quand est-ce qu'elle apparaît? Et si on suit Marc Bloch, on voit qu'il y a une adhésion populaire par justement la croyance en le pouvoir guérisseur des rois, qui est très très ancien, qui remonte au moins au deuxième Capétien. Donc c'est quelque chose,
oui,
c'est pas
bien
une
sûr.
Création contemporaine,
bien
une
sûr,
création
bien
révolutionnaire.
Sûr,
c'est quelque
oui.
chose de très ancien. Et donc je pense que ça mériterait un article, puisque c'est intéressant de voir tout
un...
ce que...
C'est un véritable historien,
voir, hein.
Et c'est un historien de la nation française, et il était vraiment un patriote français. D'ailleurs, l'étrange défaite, il stigmatise les institutions républicaines. Alors, on en fait maintenant un apôtre de la République, mais...
Et de la construction européenne, ce qui
mais
me paraît
il
un
ne
petit
peu... Pas, mais il ne l'était pas du
un
tout,
peu tiré
pas
par
du
les
tout,
cheveux,
pas
hein.
du tout.
Et c'est vrai, parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord, mais un peu plus de choses avec lesquelles je suis en accord avec Hilaire. Et je suis content qu'il aime Marc Bloch, qui était d'ailleurs un lointain cousin.
Oui, ah bon, d'accord.
De servir sa famille.
Non, alors, j'ai lu
Valdassin et Laurent sont un peu cousins de toute façon.
Effectivement, il faut dire que c'est un petit coin de France et que nous sommes tous plus ou moins cousins.
Alors, il veut intervenir.
Alors, je continue pour tirer, hein, ça va bien, ça.
Oui, non.
Ça y est, il est.
Allô,
Pierre-Lours. Oui, allô, bonsoir, Hilaire.
Bon, on vous a manqué.
Et on avait commencé avec Élie de Trèves.
Non. Comme ça, j'ai fait mon introduction.
Alors, il faudrait que vous coupiez votre radio.
Pardon ?
Il faudrait que vous coupiez votre radio.
J'ai pas de radio, mais j'ai mis le haut-parleur du téléphone, alors c'est peut-être ça.
Voilà. Bon, écoutez, on interrompt Élie de Trèves, qui n'est pas bien, mais on a fait une bonne introduction sur Marc Bloch, et je passe à vous, puisque c'était prévu comme ça. Donc, vous voulez nous parler...
Allô,
vous m'entendez ?
Je n'entends plus.
Vous m'entendez ?
Vous entendez ? Oui.
Allô, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Alors, vous devez nous parler des lettres à mes petites filles.
Oui, écoutez, voilà.
Alors, attendez. Une seconde, ça ne va pas. Il faut vous appeler sur une autre ligne.
Communication avec le Cantal est difficile.
Après tout, comme on l'évoquait un peu plus tôt, tout le Haut-Rhin aime à se prétendre être un peu cousin de Jeanne d'Arc hein, aussi. C'est d'ailleurs assez amusant.
Je ne la revendique pas encore dans ma généalogie. Mais
moi, j'osais notamment, quand j'étais plus jeune en cours d'anglais, ça m'a amené à une anecdote un peu improbable avec ma pauvre professeure de 5e qui, voulant me faire apprendre quelques verbes irréguliers, je lui répondis un beau matin... Mais madame, je ne peux pas apprendre la langue de l'ennemi, ils ont brûlé une de mes lointaines parentes. Effectivement, tout Lorrain est fier de dire qu'il est un peu issu de Jeanne d'Arc, et depuis lors, j'ai toujours eu une forme de difficulté à apprendre cette langue, qui est la langue des Godons. Mais au-delà de cela, il faut noter tout à fait que vous avez une forme de parenté, cher ami, avec Marc Bloch, et votre introduction était extrêmement intéressante, et je vous prie de bien vouloir la poursuivre d'ailleurs. Hein.
Oui. On l'a perdu, alors reprenons en fait. Hein. Donc c'est amusant tout à coup, je pense, mais je vous introduis. J'introduis en avance votre sujet, mon cher Rock. Hein. Vous allez parler non pas des rois thaumaturges, mais du président massacreur. Hein.
Tout à fait.
Du président tueur en série. Alors du coup, j'avais une pensée un peu positive en surveillant les futurs bacheliers, en disant que finalement, bizarrement, ça marche, ça marche pas, mais c'est une sorte de rite aussi, et de rite assez structurant, et voilà, c'était assez touchant de voir toutes ces petites têtes, blondes, pas très blondes d'ailleurs, hein, mais qui jouaient le jeu, en fait, d'accord. Et qui étaient contents d'être là. Et donc, pour revenir...
Élie, nous allons reprendre, et nous sommes... Je suis désolé auprès des auditeurs, on a des tas de petits problèmes techniques, des complications. Alors, allons-y. Nous avons notre ami Pierre Lours.
Oui, je suis là.
Et cette fois-ci, c'est audible.
Bon, très bien.
Alors, vous devez nous parler des lettres à mes petites filles de notre ami Anne Brassier.
Oui, absolument. Anne Brassier vient de publier un livre tout à fait à la fois touchant et porteur de messages qui, bien sûr, s'adressent à ces petites filles, mais s'adressent en fait à tous les citoyens de ce monde perturbé dans lequel nous vivons. Son livre est paru aux éditions The Book Edition, c'est-à-dire que c'est une façon, si vous voulez, de faire paraître des livres sans passer par un éditeur, et c'est une bonne manière, d'ailleurs, je crois, de procéder, en tout cas tel que le témoigne Anne Brassier. Alors ce livre a été préfacé par Guillaume de Tiolois, dans sa très belle préface, très complète, très profonde, il insiste sur effectivement le fait qu'il faut absolument résister à la marée noire et montante de l'oubli, selon sa formule. Et effectivement, nous savons bien dans une société où nos gentils gouvernants, gentils étant un euphémisme, font tout pour que nous oublions nos valeurs, pour que nous oublions notre histoire, pour que nous oublions même nous-mêmes. Nous censurent, ils utilisent le mensonge, ils utilisent la reconstitution du passé et des faits. En un mot, si vous voulez... ils font exactement ce que Solzhenitsyn ne veut pas faire, et que d'ailleurs Anne Brassier mentionne dans son livre, c'est-à-dire le mensonge ne passera par moi, ne passera pas par moi. Et ils font exactement tout, c'est-à-dire que le mensonge passe par eux absolument et en permanence. Et donc face à ces gens-là, si vous voulez, face à ce mensonge, il faut ressortir le vieil slogan antifasciste, no passaran. Oui. Je crois qu'il faut ressortir le slogan et le renvoyer dans les dents. Voilà. Alors, que nous dit Anne Brassier donc, pour essayer de contrer effectivement cet oubli, ces mensonges quotidiens qui sont là pour pervertir, nous pervertir, et surtout, bien sûr, pervertir les jeunes âmes les jeunes personnes les enfants, les adolescents, enfin tous ceux qui sont l'avenir de notre société. Alors si vous voulez bien, hier, je vais vous lire très rapidement quelques petits passages de ce livre très bien écrit, très, très profond, pour donner un avant-goût en quelque sorte. Je vais effeuiller le livre de Anne Brassier. Alors, par exemple, elle insiste bien sûr sur cette notion de transmission et elle nous dit que cette lettre comportera des portraits des ancêtres sans lesquels nous n'existerions pas. Elle dit un peu plus loin qu'elle va relater de jolis souvenirs, les miens, dit-elle, ceux de votre père, enfant, et enfin les vôtres. Ainsi, vous puiserez à votre gré dans cette malle au trésor pour vous rendre heureuse, pour oublier une peine. Effectivement, l'histoire, si vous voulez, l'histoire, la mémoire, c'est effectivement une véritable malle au trésor qui permet d'oublier les peines qui peuvent nous assailler dans le présent. Elle insiste d'autre part aussi sur la transmission, en disant que j'écris aussi cette lettre pour que les grands-parents d'aujourd'hui, qui s'étonnent de quelques bizarreries contemporaines, donc que ces grands-parents en fait se rendent bien compte que c'est justement en luttant contre la propagande de ces révolutionnaires par justement les souvenirs qu'ils peuvent raconter, par leurs témoignages, c'est en luttant contre cette propagande qu'ils mènent un combat tout à fait salutaire pour l'avenir et pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors, tout au long de ce livre, où elle raconte en quelque sorte un peu l'histoire de ses ancêtres, de sa famille, où elle raconte en fait les racines de ses petites filles pour que ces racines leur soient profitables, Anne Brassier égrène moult conseils, soit des conseils qu'elle formule elle-même, soit des conseils qu'elle emprunte tout simplement aux grands auteurs. Alors, je vais vous en lire quelques-uns de ces conseils, oui, si vous voulez bien.
Bien sûr.
Par exemple, elle rappelle le sens de la brièveté du bonheur, sa fragilité, m'ont poursuivi toute ma vie. Et elle dit enfin, avec une très belle formule, le bonheur est une île. Un peu plus loin, c'est la page 61, je suis en train de feuilleter tout cela avec vous. Elle rappelle, à la suite avec Ernst Jünger, « Prenons garde au plus grand danger qui soit, celui de laisser la vie nous devenir quotidienne. C'est un miracle d'être en vie, dit-elle, à peu près saine de corps et d'esprit et d'avoir une jolie famille. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas ce bonheur, alors réjouissons-nous, admirons. » Et elle ajoute, avec Chesterton, « Nous périssons faute d'émerveillement, et non faute de merveille. » Ça, à mon sens, c'est très très juste. Je continue, et j'espère que, effectivement, comme je l'ai ressenti, toutes ces formules, toutes ces sentences font du bien, en fait, quand on les écoute à notre époque. Et elle cite Gustave Thibon, bien sûr, « La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. »
Oui.
Très juste, très juste.
Très juste forme,
un peu plus loin, avec Nicolas Gomez d'Avila, « Les idées de moins de 1000 ans ne sont pas totalement fiables. » Ce qui est assez extraordinaire. Un peu plus loin encore, elle s'adresse à ses petites filles et elle leur dit « Votre corps vous appartient, comme dit le slogan des féministes. C'est vrai, mais elles, les féministes, célèbrent l'avortement. Nous, nous célébrons la vie. Votre corps est sacré car il possède ce pouvoir créateur de donner la vie. » Et à notre époque, effectivement, on voit bien que la vie est assaillie de tous côtés, que ce soit par l'avortement, que ce soit par la procréation pour autrui, que ce soit maintenant par l'euthanasie. La vie est véritablement à défendre.
C'est
vraiment une zone à défendre, comme disent les, les écolos gauchistes. Et puis, si on a encore un tout petit peu de temps, hier, je vais vous lire Tolstoï, que Anne Brassier cite. Tolstoï dans Anna Karénine. Le prince Lénine veut se marier, mais avoue au prêtre qu'il ne croit pas en Dieu. Ce dernier lui répond, et c'est Tolstoï qui évidemment parle, « Mais vous n'y arriverez pas sans lui, sans Dieu. Le mariage est une aventure redoutable. » Et Anne Brassier ajoute, « Mais il y a des exceptions, il y a des exceptions des couples qui connaissent un bonheur parfait. Une amie me disait, « Il faut savoir remettre des bûches dans la cheminée. » J'ajouterai, dit Anne Brassier, comme font les fées dans les contes, trois potions magiques, l'humour, la générosité et l'intelligence. Ça, ça me paraît tout à fait judicieux. Et pour terminer, ou pas loin en tout cas, elle cite un proverbe normand pour que ces petites filles, qui pourraient être très utiles à ces petites filles, elle leur dit « Méfiez-vous de ne pas vous méfier assez. » Si vous voulez, c'est un petit peu la mise en valeur de l'attitude de tous ces gens qui, à notre époque, ne se contentent pas d'affirmations benêtes qu'on leur assène, mais qui essayent de voir derrière les choses, derrière les événements, pour trouver le véritable sens.
Absolument.
Voilà.
Merci.
Donc, ça, c'est le livre
Pierre.
D'Anne Brassier.
Et est-ce que vous pouvez donner les références pour que nos auditeurs puissent se le procurer?
Alors, ce livre s'appelle donc Lettres à mes petites filles, préfacé par Guillaume de Thiolois. Il est vendu à 15 €. Et alors, vous pouvez le trouver sur l'association Le Livre en Famille. Je pense qu'on tape Le Livre en Famille sur Internet et vous trouvez l'adresse et les coordonnées très facilement. Vous le trouvez aussi à Chiré-en-Montreuil. Vous le trouvez aussi donc sur le site The Book Edition, The Book B2OK Edition. Et enfin, et ça c'est évidemment plus connu de tout le monde, vous le trouvez sur Amazon. Voilà, donc vraiment c'est un livre qui n'est pas long, qui fait un peu plus de 100 pages, mais qui va à l'essentiel. Et qui a comme fonction à la fois, si vous voulez, de préserver le moral, de redonner du moral, de donner des conseils et d'aider, de nous aider effectivement à lutter efficacement contre les ennemis, contre nos ennemis, contre nos adversaires.
Merci beaucoup, Pierre. Et merci à Anne Brassier pour cette lettre à mes petites filles que nous recommandons à tous nos auditeurs. Merci.
Absolument. Je vous souhaite
bientôt.
Une bonne soirée.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Alors, maintenant, revenons à notre.
Revenons à Marc Bloch.
Revenons à Marc Bloch.
Avec des hauts et des bas, de finir mon premier point sur 4 qui était.
Histoire de poursuivre en un seul bloc le projet.
Et donc, j'étais en train de dire, en évoquant le baccalauréat, qu'il faut sans doute des rites communs pour construire une nation. Ce que m'inspirait aussi la lecture de Marc Bloch, c'était l'idée qu'il le sacré est nécessaire au pouvoir suprême. Hein.
Oui.
Il s'est dit, paraît difficile de s'en passer.
C'est très net dans son œuvre.
Et donc c'est assez net.
Je crois l'avoir lu intégralement et voilà. C'est très net. Ce n'est pas du tout un auteur progressiste.
Ça dépend de ce qu'on appelle progressisme, c'est
sensible à la. Il n'a rien à voir avec l'idéologie macronienne.
Du Moyen-Âge, il essaie de ne pas être anachronique, justement.
Oui.
C'est la leçon aussi de Lucien Febvre. Donc, il faut du sacré au pouvoir suprême, parce que c'est le contrepoids nécessaire à la seule force. Hein. Et on voit que le sacré, c'est sans doute un peu ce qui manque à Donald Trump et à Emmanuel Macron.
D'une manière générale à nos gouvernants.
À nos gouvernements.
Non, puis surtout, c'est pour lui, je pense qu'en plus de ça, c'est une confirmation de légitimité. Parce que quelle est la légitimité d'un aventurier de passage qui réussit à s'emparer du pouvoir même par une élection? Marc Bloch s'est posé la question. Et il s'est posé la question avant 1940.
Oui, il se pose la question même, sans doute. Il se pose la question entre 1910 et 1920, au moment où
bien sûr.
Il
rédige
sa thèse. Où la question se pose déjà.
Et c'est une question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la légitimité d'un homme qui a ravi le pouvoir à l'occasion d'une élection? Parce que ce n'est
à
que ça.
À quelques voix près.
Finalement. À quelques voix près, ou même si c'est avec...
qui les ait ou qui ne les ait pas vus, d'ailleurs.
Oui.
D'autant que vous oubliez un élément qui est quand même assez triste en France, c'est que nous n'avons pas de mandat impératif. C'est-à-dire qu'on est élu sur la base vague d'idées qu'on aurait émises.
Oui, sur un programme.
Voilà.
Un prétendu programme.
Prétendu. Là, le mot est très juste. Parce que, mine de rien, derrière cela, on n'a aucune substance réelle, pas de moyen de contraindre. Alors comment voulez-vous que la volonté du peuple soit respectée? C'est impossible. Impossible.
La question de la légitimité est très importante chez Marc Bloch. Alors allons-y.
Donc, je disais que le sacré est le contrepoint nécessaire à la seule force dans l'exercice du pouvoir suprême, comme doit l'être aussi l'esprit de justice, on avait un petit peu parlé, qui est un élément nécessaire aussi dans les relations internationales.
La main de justice accompagne le sceptre.
Et ce qui est frappant aussi, et je vais finir sur Marc Bloch, mais comme quoi c'est toujours intéressant de revenir aux grands auteurs et parfois quelques siècles en arrière, c'est l'importance chez les souverains et au Moyen-Âge de la parole donnée et le poids de la parole. Et on voit bien que, là je viendrai plutôt, on va revenir au sujet de Donald Trump, on voit bien que c'est un problème. En fait, il a tendance à, il pratique plus le bluff que la parole donnée, mais à un certain moment, quand on essaye de faire la paix, ce qui est le cas en ce moment, ça a un coût, enfin, le fait que plus personne ne croit à ce qu'il dit parce qu'il est peut-être en train de bluffer, en train de mentir, ça a un coût et ça rend la paix beaucoup
bien
plus difficile.
Sûr.
Et
bien
donc,
sûr.
Mentir, quand les gens sont surpris au départ, c'est un gain, mais finalement, à la fin, c'est un coût quand on essaye de reconstruire.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
C'était mon introduction très morale.
Non, mais c'est vrai, c'est très juste. C'est très juste pour Trump et c'est très juste pour Macron. Et ça a été très juste pour les Paul Reynaud et toute la bande des Daladier et autres, qui nous ont flanqués dans la défaite de 1940, comme si on ne tirait aucune leçon du passé.
Mais ça a toujours été comme ça. Malheureusement, quand nous avons été en République, il faut le voir, on a été désarmés en 14. Pourquoi? Parce que nous avons des politiques qui refusaient de s'orienter vers l'Est et qui préféraient s'orienter vers l'Afrique, alors que leurs projets, notamment, on pensera à Jules Ferry et aux hommes de gauche, étaient financés par Bismarck, afin de se détourner de la France. Ça a été pareil en 36 avec les agitateurs communistes et autres bolcheviques qui étaient présents en France. Faut pas l'oublier, malheureusement. Ceux qui ne veulent pas que la France avance vont toujours tout faire pour que celle-ci soit distraite et porte son regard autre part que sur la France. Et malheureusement, on chute à chaque fois.
Je confirme vos propos, d'autant plus qu'on oublie toujours que, par exemple, Georges Clémenceau, jusqu'à la date du mois d'août 1914, a toujours voté contre les budgets militaires.
Tout à fait. Mais on verra.
Mais il était anticolonial aussi. C'est compliqué, Clémenceau. Voilà.
Alors, ça a toujours été.
J'aime bien sa moustache.
Moustache de tigre.
Allez. Mon deuxième point, c'était non pas. C'était le 17 juin. Le 17 juin a été conclu donc le mémorandum d'Islamabad qui amène. Ont à peu près, et on peut l'espérer, en fait, la fin du conflit entre les États-Unis, l'Iran, Israël, et peut-être le Hezbollah et le Hamas. Enfin, tout ça est un petit peu compliqué. Mais depuis le 17 juin, on est à peu près, je dis bien à peu près en paix. Il y a eu un regain de tension pendant le week-end.
Hier encore,
mais on a l'impression que on est dans la retenue, on montre qu'on pourrait faire, mais on fait attention de ne pas trop frapper. Donc ça semble être dans un... On semble...
Oui, c'est très difficile
à dire. Processus d'apaisement tout de même. Oui. Pour l'instant, en fait, le mémorandum d'Islamabad est à peu près respecté. Et peut-être va-t-il durer. Je dis bien peut-être, parce que...
Peut-être.
Faites prudent. Alors, il est signé donc entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan, qui soudain devient une puissance médiatrice, avec entourant le Pakistan, je crois qu'il y a des délégations aussi du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et de l'Égypte. Et alors il a été signé à distance et le président Trump l'a signé depuis Versailles.
Oui.
Je
ne
sais pas si c'était dans la Galerie des Glaces, en tout cas pas très loin.
Sous les yeux de Macron.
Sous les yeux, voilà.
Donc, il a encore une fois.
Et Ce qui est intéressant, c'est que, alors là aussi, c'est sans doute un petit, hein, il y a un diplomate un peu taquin qui a lu l'histoire. Hein. On parle, il y a 14 points, en fait, dans le mémorandum d'Islamabad, comme il y avait les 14 points de Wilson, voilà, ils aiment bien. Les 14 points. Je vais pas, j'ai regardé la liste des 14, mais en fait, on peut les résumer à 5 ou 6 grandes idées. La fin des frappes, hein, donc c'est un peu le début de la paix. La réouverture du détroit d'Ormuz sans autorité de contrôle qui était envisagée par les Iraniens.
Oui, et c'est encore pas gagné. Voilà. Oui, ils veulent un droit de péage. Hein, avec comment oui.
Quoique, pour l'instant.
Que c'est un argument de négociation, parce que oui. Je sais pas si.
Un navire a réussi à passer, c'est un navire de la société CGM, je crois.
Oui, il y a quelques-uns qui passent, enfin, on est dans. Voilà. Fin du blocus naval. Hein, par les États-Unis des ports iraniens et la création d'un fonds d'investissement géant de 300 milliards hein, de dollars et le dégel en fait des avoirs iraniens à l'étranger qui semble une base assez rationnelle pour un processus de paix.
Il faut qui représente des masses importantes.
300 milliards, c'est important.
300 milliards.
Il est à noter qu'il y a des conversations sur le nucléaire, mais rien n'est dit sur le nucléaire dans le mémorandum d'Islamabad, donc on va en revenir un petit peu. Donc, un mémorandum qui a été signé par les parties distantes, légèrement violé, puis remis en vigueur, et pour l'instant, on en est là. Et ça permet donc de faire un bilan, c'était celui qui m'était demandé, et c'est toujours une question compliquée hein, en histoire,
c'est très difficile.
Qui a gagné? Et on voit bien que c'est un peu comme dans la boxe, soit il y a un des deux protagonistes qui est KO, donc là on voit bien qu'il y en a un qui est debout et un qui est à terre, mais ça n'arrive pas tant que cela en histoire, c'est arrivé à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est arrivé à la fin de la Deuxième, hein, mais c'est relativement exceptionnel, donc on peut compter les points, sachant que ce qui peut paraître une faiblesse au moment de la paix peut être une force quelques mois ou quelques années plus tard, donc, mais de toute façon il est nécessaire de faire un bilan, de tenter un bilan, même s'il est nécessairement imprécis. Ah oui, j'avais une petite blague, je l'ai peut-être déjà racontée,
oui.
Mais qui était... on raconte qu'il y a... je sais plus très bien d'où je l'ai sorti, mais je la cite dedans, je l'utilise de temps en temps, c'est une délégation d'étudiants maoïstes qui, dans les années 60-70, se rend en Chine et qui rencontre le Premier ministre, Zhou Enlai, qui est sage, efficace et qui parle français, et qui, pour montrer qu'ils ont un recul historique, demande... à Zhou Enlai, quel est son avis sur la Révolution française hein. Et Zhou Enlai, il répond, il est beaucoup trop tôt pour avoir une opinion. Ouais. Alors, commençons donc par les États-Unis. Trump qui perd, d'où mon titre, c'était Trump qui perd, Trump qui gagne. Alors, les médias, en général, se gaussent de l'échec du président en disant qu'il n'a pas réussi à renverser la République islamique. C'est exact. Le régime est toujours là et le régime lui a tenu tête. Donc on peut dire c'est un échec, mais ce n'est qu'un échec relatif. Croyait-il forcément sa réussite en tentant son coup?
En tout cas, il l'a dit. Il l'a dit.
Il l'a dit. Mais voilà, c'est
pas au début, c'était une affaire de quelques jours. Il écrasait définitivement l'Iran.
Et c'était les rodomontades du président Trump. Donc. Peut-être que lui le croyait, je ne sais pas si nous, on devait le croire. Certes, il ne l'a pas fait, mais y a-t-il d'exemples de régimes qui puissent être balayés en quelques jours? Soit on prend le président par surprise, comme au Venezuela. Il y a l'affaire, finalement, la seule victoire, c'est de comparer une victoire des États-Unis récente, c'était en 1984, je crois, c'est l'invasion de la Grenade.
Oui.
En fait, l'armée grenadine, même appuyée par quelques Cubains, était assez limité, donc ça a été une victoire totale, mais depuis, jamais les Américains n'ont réussi à prendre véritablement le contrôle d'un pays, parce que le fait national est compliqué, et donc s'il y a 100 000 habitants, on peut, mais dès qu'on passe à quelques millions, ben, l'Irak et l'Afghanistan, c'est très très difficile, et peu d'États le peuvent, et de toute façon, les États-Unis s'en sont rendus compte, même, je crois que c'est 1993, c'est quand ils essayent d'intervenir en Somalie, ben voilà, auréolé de leur victoire relative d'ailleurs dans le Golfe hein, en 91, eh bien ils essaient d'intervenir en Somalie et ils perdent des hommes et voilà, ils se font tailler, enfin ils sont obligés de reculer parce que paraît pas intéressant devant quelques dizaines, quelques milliers de bandits armés en fait,
oui, voilà, c'est ça.
Simplement la guerre a un coût. Et Ce qu'on peut donner, alors je ne sais pas si c'est une défaite ou une victoire, mais il faut donner un coup de chapeau relativement à Donald Trump. Il a eu l'intelligence de savoir s'arrêter, en fait. Hein. C'est très difficile quand on commence une guerre, hein. Et c'est la grande hantise des Américains, et a raison, en fait. C'est la guerre du Vietnam, mais c'est aussi peut-être la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak. La guerre du Vietnam, on a un enchaînement parce qu'on ne reconnaît pas qu'on peut perdre, en fait. Hein. Et donc là, savoir qu'on peut perdre, hein, c'est une sagesse, et c'est sans doute une grande habileté, une grande intelligence.
Ou s'enliser.
Voilà.
Oui,
on s'enlise et puis on en met de plus en plus parce qu'on ne veut pas perdre, et on continue, et on continue. Et là, il a eu l'intelligence. Et finalement, quel est le bilan humain? C'est quelques dizaines, 10, 20, 30 Américains. Ça n'est pas... Enfin,
du côté américain,
du côté américain, parce que du côté,
voilà, et surtout du côté des populations civiles.
Voilà, mais si on le mesure à l'aune américaine du nombre de morts américains, c'est une opération extrêmement limitée dont l'opinion ne lui tiendra peut-être pas rigueur. Hein.
Si ce n'est le budget dépensé.
Alors, il y a un coût financier qui est énorme, mais l'économie est une chose bizarre, donc peut-être que ça peut avoir aussi un
rebond, peut-être.
Un aspect de relance, en fait, qui est, ça sert à ça aussi, la guerre.
Notamment pour les industries et militaires.
La crise économique, elle est réelle pour les pays qui n'ont pas de pétrole, pour nous. Beaucoup moins pour les États-Unis, même
bien
si c'est un aspect. Et il va y avoir finalement, on peut penser qu'on va voir ce qui se passe aux prochaines élections de mid-term. Et là, ce sera un des marqueurs de sa victoire ou son échec. On peut penser qu'il va plutôt les perdre, mais c'est pas sûr tout de même. Et c'est pas uniquement à cause de la guerre en Iran. C'est plutôt... un ensemble de choses.
Oui, d'autant que jamais le gallon, donc c'est l'unité de mesure de l'essence aux US, n'a été aussi cher, en fait.
Voilà. Mais
les Américains...
Ça va redescendre, en fait.
Oui, mais pas tout de suite. Les Américains jouent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas faire bouger leur gros truck, c'est-à-dire leur gros pick-up, leur véhicule tout-terrain, qui consomme énormément d'essence, ils vont lui en tenir rigueur. Mais pour autant... Qui sait, peut-être que le coût de l'essence va diminuer d'ici quelques jours ou quelques semaines.
D'ici quelques mois pour les élections.
Hein. Espérons-le.
En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'a pas réussi à rallier les médias européens.
Ça, je crois que c'est un combat un peu désespéré tout de même.
Et je pense. Et pour lui, son souci, c'est que ça continue après lui. Il a quand même derrière lui des gens comme Vance, comme Rubio, qui sont des gens qui veulent maintenir l'idée d'une Amérique triomphante et supérieure. Et c'est certain que dans cette affaire, Trump perd des plumes et l'idée d'une... supériorité américaine et également. Elle n'est...
Mais
après, il y a aussi la question de comment sera interprétée à l'avenir par les différents médias cette situation. Oui. Parce que, comme vous le savez, jusqu'à la fameuse photo au Vietnam où on voit un colonel vietnamien faire sauter le caisson, désolé pour l'expression, d'un Vietcong. Les Américains n'avaient pas encore perdu. Là, si ça se trouve, ils vont réussir l'effet inverse en disant, regardez, les Iraniens ont plié sous notre force de frappe, quand bien même on n'a pas débarqué, ils ont accepté nos conditions, bien que seul l'avenir nous le dira, parce que si ça se trouve, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils pourraient très bien reprendre les frappes, et inversement, puisque si les Américains sont intervenus, c'est avant tout aussi pour leur allié israélite. Faut pas l'oublier.
Je peux un peu vous dire ça, à mon avis. Mais...
C'est alors, plus compliqué, mais ça fait partie du jeu global.
Je vais y venir. Alors, peut-être pour finir sur le Trump qui perd, Trump qui gagne, je pense qu'il ne faut pas se placer d'un point de vue d'une sorte d'affrontement définitif qui serait le début ou la fin du Trumpisme. Je pense qu'il faut, pour penser comme Trump, c'est un homme d'affaires, il a des coups, il en tente, il en perd certains. Mais ça fait partie du business, en fait. Hein. Donc, oui, il a plutôt perdu ce coup, mais c'est pas grave, il en a d'autres. Et c'est un investissement, il a perdu un peu d'argent, mais pas tant que ça. Donc, ça fait partie de la vie des affaires. Je crois que c'est pour ça. Oui. C'est comme ça qu'on peut évaluer, à mon avis, ce conflit, finalement, relativement limité à l'échelle de l'Amérique et mandat de Donald Trump. On ne parle plus. Alors, les mauvaises langues diraient, on ne parle plus d'Epstein.
Oui.
Voilà.
Alors, on passe le Bobino. Passons le Bobino. Thank you.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'Ogym, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Merci. Alors, chers auditeurs, nous continuons. C'est passionnant. Et c'est d'autant plus passionnant que quand même Trump, au départ, avait prépositionné des forces considérables. Quelque chose comme 50 000 hommes dans les bases américaines autour du Golfe. Avec les meilleures troupes américaines, des troupes d'élite. Et c'était certainement au départ dans l'idée d'un écrasement de la puissance iranienne et d'une occupation, sinon du territoire, parce que c'était difficile, mais au moins des principaux centres de distribution de pétrole et de gaz.
Je dirais que l'art suprême de la guerre, c'est plutôt de montrer ses troupes et de ne pas s'en servir.
C'est
en fait.
Ça, donc c'est... oui. Voilà. Ça a été le cas.
Alors, le deuxième protagoniste, c'était donc l'Iran. J'avais trouvé un joli titre aussi. Quelle flèche reste-t-il aux Parthes, hein ?
Oui, c'est ça.
Là aussi, c'est difficile à dire.
Attiré par derrière.
Voilà. C'est difficile à dire. L'Iran semble, dans l'opinion de gauche, avoir remporté la victoire. Alors, je pense que c'est un peu égal. Je pense que l'Iran, ça lui est un peu égal. Et les Iraniens aussi. Oui, ils ont tenu tête et le régime est toujours là, mais le coût économique est considérable. Il y a des milliards, en fait, sans doute quelques milliards de dégâts, ah oui, d'où l'importance de la reconstruction.
Des centaines de milliards, oui.
Et certes, si le régime, on peut se demander ce qui va se passer à terme. Hein. Le régime, on voit, n'est toujours pas très très populaire parce que souvent, il y a une sorte de sursaut national quand on est attaqué. Là, le sursaut national iranien a été très, très limité. Donc, le régime a tenu, mais on peut penser qu'il est tout de même assez affaibli. Il a perdu une partie de, de ses chefs, une partie de ses dirigeants,
de sa hiérarchie,
et
oui.
Une partie de son aura, puisque tout de même, un régime existe parce qu'il peut protéger ses citoyens, au moins quand il s'agit d'un État. Donc, on peut penser que malgré, là aussi, des rodomontades des Perses, le régime est assez affaibli, là aussi, on verra comment est-ce que ça évolue, est-ce que la détente économique va permettre au régime de se maintenir, ou au contraire, il va entraîner une libéralisation. On ne sait pas très bien. En tout cas, l'Iran est affaibli, je crois qu'ils n'ont pas forcément envie de continuer tout de suite la guerre, et il faut rappeler que leurs alliés sont toujours vivants, sont toujours clients, mais sont aussi affaiblis, je parle donc du Hezbollah, et dans une moindre mesure, hein, parce que c'est un allié un peu plus lointain du Hamas. Hein. Et mon troisième, ce serait Ebibi. Donc, non pas moi, mais Bibi Netanyahou.
Tout le monde a compris.
difficile à dire, là aussi. On peut penser que... alors oui, il y a un refroidissement, mais est-ce qu'il est très ponctuel et apparent entre Israël et les États-Unis, de toute façon, qui ont été des alliés... à la fois des alliés anciens, mais sur ce conflit, des alliés de circonstances aussi. Donc aujourd'hui, les intérêts ne sont plus les mêmes. Difficile de savoir. On peut penser que là, si on va vers la paix, il va y avoir des élections à l'automne. Hein, et peut-être que la page Netanyahou va être tournée, ce qui ne semble pas totalement inenvisageable, parce que souvent, les peuples en ont assez de la guerre. Et donc, à un moment, quand la paix arrive, on veut changer de dirigeant symboliquement, d'autant que il y a des tas d'affaires politiques aussi. On peut penser que le prestige de Netanyahou, celui qu'il a retiré du conflit, qu'il a mené malgré tout, pourrait légitimer une grâce présidentielle, ce qui lui permet de se retirer avec les honneurs. Hein. Alors rêvons d'un gouvernement israélien qui serait capable de faire quelque chose comme Oslo. On peut toujours rêver, en fait.
Hein. Avec deux points qui sont importants pour Netanyahou, pour Israël, c'est qu'il récupère le Sud-Liban.
Il récupère le Sud-Liban, mais...
Et à quelque prix que ce soit. Hein,
mais il ferait bien sans doute ne pas...
Et il récupère la Cisjordanie parce que là, ils en profitent, les colons israéliens en profitent. Pratiquement, c'est un règlement de compte avec les Arabes du lieu. un certain nombre d'ailleurs qui sont chrétiens et sans aucun scrupule.
Il y a une occupation militaire très dure. Hein.
Oui.
Voilà, je persiste à penser que comme État Israël doit pouvoir se défendre, mais qu'à un moment il faut trouver une façon d'établir le respect des populations, populations locales palestiniennes.
Alors, d'autant plus qu'il n'y a jamais, deux États, c'est ça le problème.
Je ne pense pas que la seule occupation puisse le permettre, comme on le voit bien aujourd'hui. Je ne pense pas non plus, on a déjà parlé, que la solution à deux États soit la bonne.
Mais non.
Peut-être que la bonne solution, c'était le compromis de 49, des DAPAN 1967, c'est-à-dire une solution avec sans doute une Cisjordanie sous tutelle jordanienne, une monarchie tempérée et heureuse, et de l'autre côté avec l'Égypte, qui sans être une monarchie est un régime plutôt pragmatique et assez pacifique.
Ou bien,
et donc il faut bien tout de même, et on le disait à la fin pour finir sur le conflit au Proche et au Moyen-Orient, ce qui est intéressant c'est qu'on a une reconfiguration qui était celle souhaitée par les Américains, c'est-à-dire avant le déclenchement du conflit, qui est l'attaque du Hamas est en fait pour essayer de contrecarrer en fait ce retournement d'alliance qui serait finalement une paix possible entre les Arabes, les États arabes en général et Israël, puisqu'aujourd'hui plus personne ne semble avoir d'interdit que d'une façon c'est les Iraniens qui l'ont cherché d'une certaine façon, les Américains, les Arabes, les États arabes et Israël se sont retrouvés dans le même camp face aux Iraniens.
Avec les fameux accords d'Abraham, qui sont une technique intelligente qu'avait créée Trump, au crédit de Trump.
Donc on ne sait pas très bien qui a perdu, qui a gagné, mais on peut encore gagner, la paix peut-être pourrait encore gagner, espérons. Pour finir, c'est donc... Là aussi, c'est une commande d'Hilaire. C'était que se passe-t-il dans le précaré américain? Est-ce qu'il y a un succès de Trump? Est-ce qu'il n'y a pas de succès de Trump? On rappelle que c'est un petit peu le cœur historique de la politique américaine et qu'au XIXe siècle, les États-Unis ne voulaient pas sortir du continent américain, mais ils voulaient y avoir la suprématie. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a... c'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une vague trumpiste en Amérique, en fait, hors le gouvernement Trump? Oui. Alors, si on regarde les résultats des élections récentes, on voit qu'il y a une vague, sinon trumpiste, du moins conservatrice, je vais y revenir, donc en Argentine avec Milei, au Colombie depuis quelques semaines, avant-hier.
Oui. Au Salvador aussi, me semble.
Au Salvador, de façon plus ancienne, mais c'est petit, le Salvador. Hein. Et les deux, le Venezuela est moins hostile qu'il n'était. Les deux exceptions étant les deux plus grands États, d'ailleurs, qui sont le Brésil et le Mexique. Et là aussi, il faut y voir des raisons de sentiment national et de géopolitique. Ce sont deux grands États qui peuvent s'opposer aux États-Unis, alors que les moyens préfèrent une sorte de balance, en fait, entre les États-Unis et leurs grands voisins, qui sont aussi parfois un petit peu envahissants. Donc oui, il y a un mouvement de droite, on va dire, pour aller vite, en Amérique du Sud. Est-ce que ce sont des Trumpistes ou non? Et c'est toujours une question qu'il faut se poser, je pense, quand on analyse un mouvement transnational. Il y a des sortes de... Comment dirais-je? Il y a des vagues transnationales, mais à la fin, les électeurs décident nationalement, en fait. Ils rejettent le gouvernement précédent, ils adoptent une figure qu'ils connaissent et qui leur paraît séduisante. Donc je me méfie un petit peu de ces grandes vagues qui sont faciles à décrire quand il faut faire une chronique internationale à l'abri d'une tribune de presse. Hein. Donc, peut-être...
Je crois que malgré tout, en Amérique du Sud, le problème essentiel, c'est quand même le narcotrafic et l'insécurité, ce qui est en train de devenir le problème français essentiel. Le Mexique est un narco-État, incontestablement.
Donc est-ce que c'est vraiment Trump, est-ce que c'est vraiment des régimes trumpistes, ou c'est des régimes d'ordre, en fait, à l'ancienne, qui mettent leurs priorités dans le rétablissement de l'ordre, y compris par des moyens...
Ils ont besoin des Américains.
Mais ils ont besoin
des Américains, incontestablement.
Mais ils ne sont pas forcément trumpistes pour autant. Ils sont des conservateurs qui ont besoin de l'argent américain. Et pour conclure, en fait, je me posais... Enfin, je remonte à de longues années, qui étaient mes premières années à Sciences Po, où on étudiait le phénomène du fascisme. C'était un cours qui devait être donné par un... Serge Bernstein et Pierre Milza, mais surtout Pierre Milza, et qui avait écrit un livre de référence qui s'appelait « Les fascismes
oui. ».
Et son analyse, il essayait de comparer en fait, ces mouvements qui apparaissent dans l'Europe des années 30, hein, et on a l'impression que tout le centre de l'Europe bascule dans le fascisme, considérant que le national-socialisme et le fascisme étaient deux mouvements à peu près les mêmes, mais il avait tendance à considérer, je me souviens, que en fait, les vrais fascismes étaient rares et que les gouvernements qui prennent le pouvoir dans l'Europe, dans l'Europe des années 30 sont plutôt des gouvernements conservateurs autoritaires, en fait, qui n'ont que les oripeaux du fascisme, c'est-à-dire que, comme tout le monde, en fait, on a des milices, des uniformes, des chants, mais tout ça n'est pas très sérieux et tout le monde le fait, la gauche et la gauche et la droite, même dans la France des années 30, en fait. Et donc, c'était des gouvernements conservateurs autoritaires avec les oripeaux du fascisme. Et on pourrait dire qu'il en est peut-être de même, en fait, en Amérique latine. Ce sont des gouvernements conservateurs, énergiques, parfois même violents, en fait, avec un peu les oripeaux du trumpisme, parce qu'il faut être populiste pour être à la mode. Et donc, on imite un peu Trump, mais voilà, c'est tout. Et en allant jusqu'au bout de mon raisonnement, et c'est ce que j'ai noté en arrivant, je me dis, et si c'était le contraire, en fait, et si c'était plutôt Donald Trump qui imitait, en fait, les régimes conservateurs populistes sud-américains tels qu'ils existent depuis un siècle. Et je me suis dit, mais en fait, c'est plutôt ça, en fait. On a l'impression que le populiste Trump introduit dans les États-Unis, qui jusque-là étaient... s'efforçait d'avoir des élites plus respectables et avoir un système de contre-pouvoir, en fait, de check and balance, comme disent les... Donc de séparation des pouvoirs, comme on dit en français, hein, assez efficace. Il s'efforçait d'introduire donc un gouvernement fort, reposant sur la seule figure du chef qui peut se permettre tout, ce qui est toujours la figure en fait, du dirigeant populiste qui gagne ainsi les élections dans l'Amérique latine, dans des pays où l'état de droit, pour prendre une expression qui peut avoir d'autres sens, n'est pas très, très assuré. Et ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, on a l'impression qu'on avait ces dirigeants populistes dont les succès et les insuccès étaient limités par des coups d'État.
Oui, tout le temps.
Voilà, c'était c'est l'histoire de l'Amérique du Sud depuis qu'ils ont chassé la monarchie.
Oui, exactement. Enfin,
et donc finalement, ce ne sont pas les régimes sud-américains qui imitent Trump, c'est plutôt Trump qui imite les régimes sud-américains.
Votre conclusion est très intéressante parce que je pense qu'il y a beaucoup de vrai
et que ça mériterait d'être dit, en fait.
Non, ça méritait d'être réfléchi.
Oui,
c'est le gros problème de tous ces pays d'Amérique du Sud comme d'ailleurs des États-Unis, c'est qu'en réalité il n'y a pas d'institution. La seule institution nationale c'est la présidence. Et le reste, c'est une, pour les États-Unis, c'est une fédération d'États. Et heureusement, d'ailleurs, pour les États-Unis, parce que c'est la seule forme d'équilibre qu'ils ont.
Tocqueville.
Il y a au moins une certaine décentralisation effective, parce que elle est composée d'États qui ont des pouvoirs réels et des institutions comparables à l'institution centrale. De ce point de vue-là, c'est un avantage qu'ils ont sur nous. Mais il n'y a pas de stabilité historique. Et c'est leur vrai problème. Et les États-Unis ont voulu reproduire sur les États d'Amérique du Sud l'équivalent de leur prétendue démocratie. Mais ça n'a évidemment rien donné. Le problème des États d'Amérique du Sud, c'est qu'ils sont dans une instabilité permanente, avec de temps en temps un dictateur qui arrive, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, et qui prend le pouvoir, parce que le pouvoir est perpétuellement à prendre. Et c'est un peu comme chez nous, où le pouvoir est à prendre, mais on a régularisé la chose, ce ne sont plus des Bonaparte, ça peut être des De Gaulle, mais tout cela est constitutionnalisé. Mais jusqu'au jour où ça ne le sera plus. Et nous, nous sommes de cette façon-là privés de notre histoire avec un jeu républicain qui annihile toutes les forces françaises. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'en réalité, il n'y a plus de modèle dans le monde comme il y avait, il pouvait y en avoir. Au XVIIIe siècle, la monarchie française était un modèle, ou la monarchie habsbourgeoise pouvait être un modèle. La monarchie espagnole pouvait être un modèle. Aujourd'hui, ce modèle a disparu, de telle sorte que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, partout, dans tous les pays du monde, on a un pouvoir qui est perpétuellement à prendre. Et quand il est pris, il est à garder. Et quand il n'est pas pris, il est à conquérir. Et c'est ça la finalité de l'action politique. C'est la seule finalité des 40 prétendants à la présidence française, comme je les appelle, des faux rois. Voilà, il y a 40 faux rois qui n'ont aucune légitimité et qui n'auront de légitimité que s'ils l'emportent sur un concurrent. Et tout sera fait pour essayer de l'emporter sur le concurrent. Évidemment, l'idéal, c'est de se trouver en face de Jordan Bardella pour être celui qui aura vaincu Jordan Bardella. Et à ce moment-là, ils s'imaginent qu'ils auront une légitimité. C'est terrible.
C'est marrant. Parce que...
Merci beaucoup pour votre intervention.
Merci bien, je reviendrai alors.
Oui, vous reviendrez.
C'est quand même assez triste parce que ça sous-entend que, malheureusement, en France, toute légitimité se construit en opposition d'idées dont on n'a même pas tout à fait connaissance. Il y a encore pas si longtemps, il m'est arrivé d'écouter une émission sur une radio concurrente du service public, parce qu'il faut se tenir au courant de ce que pense l'adversaire. Et j'ai été surpris, je dis bien surpris, de voir le manque de considération, tout d'abord des journalistes trop grassement payés, encore une fois, avec nos impôts, mais surtout du manque de considération des différents... comment pourrais-je dire cela, politiques qui étaient présents, parce que d'un côté, ils ne visent que le pouvoir, ça c'est une chose qui est sûre, et d'un autre, ils ne pensent pas au bien des Français.
Non.
Et ça, c'est un gros défaut.
Vous parlez des politiques ou des journalistes?
Des politiques, parce que malheureusement, les deux sont liés, parce que les politiques, lorsqu'ils construisent leur raisonnement, sont, notamment en opposition, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que c'est exactement les phénomènes types qu'ils reprochent aux fascistes et aux nazis de manière générale, mais qu'ils appliquent à ceux qu'ils considèrent comme n'étant pas dans leur ligne politique. Et malheureusement, on voit quelques journalistes aller dans le sens de ces politiques qui sont aussi bien de gauche que de centre, mais ça fera partie aussi de ma chronique que je vais aborder là tout de suite, qui malheureusement ne sera pas aussi joyeuse, puisque contrairement à vous, qui, cher Élie, qui apportez une forme d'espérance au travers de la fin de ce conflit irano-américano-israélien, je suis désolé pour ce titre, le mien est beaucoup plus triste. Il est plus triste parce que nous rentrons dans une situation où la France est dans une décadence telle que tuer un criminel, c'est mal, tuer un innocent, c'est bien. Dit comme ça, ça peut paraître surprenant, mais...
C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'Assemblée et tout ce qui est en train de se passer dans nos institutions.
Tout à fait, tout à fait.
La grande demande de M. Macron. Oui.
Et pas que.
On va en parler.
Et pas que. Et des loges, il ne faut pas l'oublier. Et
oui,
des loges
maçonniques.
Parce que, mine de rien, au départ, je souhaitais, comme je l'avais annoncé à Hilaire, faire une chronique satirique. Je ne pensais pas que le vote passerait aujourd'hui. Je pensais que le vote serait beaucoup plus long que cela et que j'aurais le temps de faire une chronique ironique et satirique.
Alors, d'autant plus qu'on nous faisait prier pour que les députés... Il fallait faire un chapelet pour chaque député pour obtenir que le député bascule du bon côté. Mais on ne fait pas basculer le diable du bon côté. C'est des choses qui n'existent pas. Il faudrait faire comprendre ça à nos évêques et même à nos catholiques de droite.
Savez-vous ce que disait mon arrière-grand-mère ?
Les institutions sont en elles-mêmes totalement perverses. Et la République va toujours dans ce sens-là. Bon, et vouloir que la République soit bonne, on aura beau réciter tous les chapelets qu'on voudra, la République ne sera jamais bonne. Est-ce que les lecteurs,
elle ne
les
sera
auditeurs
jamais parfaite.
Peuvent comprendre ? Non, jamais bonne.
Effectivement.
Elle sera perverse par nature. Parce que les institutions en elles-mêmes sont perverses. Bon, alors je vous laisse la parole.
Et,
Parce que sinon, j'ai...
mais tout à fait. Mais pour rebondir, savez-vous ce que disait mon arrière-grand-mère concernant le diable? On ne dîne jamais avec le diable, même avec une grande cuillère. Et c'est très juste. Malheureusement, la plupart des députés, et d'ailleurs, j'ai ri intérieurement, et j'ai pleuré en voyant certains députés ou certains groupes politiques ayant voté pour. Je vais vous en citer deux, trois. Je vous demande deux petites secondes. Le temps que ça se recharge. Voilà. Je vais vous en évoquer un. Ça m'a bien fait rire de voir qu'ils avaient voté en majorité pour. Il s'avère que le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire a voté majoritairement à 11 voix pour et malheureusement 3 contre. Je me suis dit, c'est amusant parce que ces fameux décoloniaux que nous avons en Outre-mer, qui n'ont pas forcément tort sur tous les points, attention, ont voté pour des gens qui doivent les représenter, n'est-ce pas? Et ces mêmes gens se disent, si aux États-Unis on a voulu stériliser des femmes noires, des latinos et autres, désolé pour le terme, mais c'est comme ça qu'ils pensaient à l'époque, métèques, c'est-à-dire étrangers au sens grec du terme, qui n'est pas de la cité, eh bien, on est en train de réinstaurer ce principe un peu plus pervers, parce que cette fois-ci, on apporte la mort directement. C'est-à-dire que les plus faibles, les plus inutiles, les non-productifs, voilà, les non-productifs vont avoir une nouvelle utilité.
Les vieillards encombrants.
Tout à fait. Mais dont les poches peuvent être bien pleines.
Oui, les malades
parce
encombrants.
Parce que jamais la France n'a réussi à voter une loi aussi égalitaire. C'est-à-dire que les pauvres demanderont la mort de leurs parents, ou plutôt, les parents des pauvres en France demanderont leur mort parce qu'ils auront un poids financier beaucoup trop important, alors que les enfants des riches demanderont la mort de leurs parents pour toucher l'héritage plus vite. Oui. N'est-ce pas beau l'égalité à la française républicaine? J'admire. Voilà, enfin la mort qui rétablit l'égalité.
Ils ont réussi, au cours des dernières sessions, à annuler ce qu'on appelait les garde-fous. C'est-à-dire que maintenant, les médecins,
La vie du médecin de famille n'est plus pris en compte. Non, c'est terrible. Ouais, c'est-à-dire que...
Non, mais les religieux également seront contraints
De
transmettre la mort. Alors,
ce qui est magnifique.
C'est
magnifique du point de vue... C'est même diabolique. Le diable n'aurait jamais pu espérer mieux. Voir une religieuse apporter une seringue pleine de mort...
En 1903, ils avaient réussi déjà leur coup, oui. Et là, ça n'empêche pas l'Église de rallier la République, ce qui est complètement aberrant,
Ensuite, il faut voir comment la loi... Enfin, on peut espérer que le corps social n'est pas si enthousiaste que ça.
Non, pas du tout, je pense pas.
Et que le corps médical est aussi très réservé.
Non seulement ça, mais les infirmières.
Oui.
J'en connais personnellement qui se refusent absolument.
Alors, je vous connaissais pas tout. Enfin, je pense que les infirmières que vous connaissez sont déjà un peu partiales, du bon côté. Mais du coup, ça serait intéressant. Je suis en train de réfléchir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce serait d'essayer d'avoir un mémorial, en fait, un registre des gens qui se sont fait donner la mort, comme ça, pour qu'au moins il en reste quelque chose, que peut-être une certaine honte jaillisse sur ceux qui les ont poussés à...
Mais
non, ça serait difficile, parce que on peut pousser sa vieille main à mourir, mais c'est un peu difficile de l'assumer devant ses voisins et ses collègues de travail. Enfin, je pense qu'il y a...
On trouve toujours pour une très bonne raison et un prétexte. Il y a un habillage. C'est l'art de ces messieurs.
Elles souffrent.
Oui, mais bien sûr. Et quand on nous dit que tout ça est une loi sociétale, une loi sociale, quand on pense que Macron va la faire passer, il veut la faire passer pour le 15 juillet, et qu'au mois de septembre, il va recevoir le
Brigitte,
pape. Le pape.
Brigitte, méfiez-vous.
Voilà. La volonté de votre amant risquerait de vous pousser dans le fossé plus rapidement que prévu. Mais au-delà de ça.
La question se posera.
Voilà. Mais au-delà de ça.
D'autant plus que, comme on sait très bien, par les enquêtes qui sont faites sur les patrimoines des élus, que Macron n'a rien. Vous savez que c'est l'un des plus pauvres présidents que nous ayons jamais eu. Il avait un patrimoine de 600 000 euros. C'est-à-dire au-dessus de Madame Autain. Il n'avait rien. Alors, il est vraisemblable que, par conséquent, le magot est plutôt du côté et plutôt du côté de oui, comme vous dites, de Brigitte. Oui, vous avez raison de mettre en garde Brigitte, parce qu'elle a atteint un certain âge. Elle peut être atteinte par des maladies.
Quelques démences.
Incurables. Et qui seront lourdes à porter. Non, mais certainement.
Un fardeau pour son mari.
Peut-être que son mari sera amené par charité. Charité à lui proposer la bienheureuse piqûre. Oui, bien sûr.
Mais au-delà de cette piqûre, je suis quand même surpris qu'on demande à un corps, enfin même au corps, j'entends médecins, infirmiers et autres soignants, de pouvoir prodiguer cet acte abject qui est le retrait de la vie. Si les gens veulent bien se suicider, c'est une chose. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas leur confier la responsabilité entre leurs mains ? Ce n'est pas parce que nous avons Parkinson que nous ne pouvons pas plaquer contre sa tempe une arme. Je trouve ça abject de faire reposer sa propre mort entre les mains de tiers. C'est absolument scandaleux. À aucun moment, on ne devrait faire reposer le choix de son décès à d'autres qu'à soi-même, ou plus précisément à Dieu. Si jamais vous ne croyez pas en Dieu, c'est une chose, mais obliger des gens qui croient en Dieu et au respect de la vie, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou même bouddhistes, on ne peut pas leur faire reposer sur le dos l'obligation de vous ôter votre vie parce que vous n'avez pas le courage de vous foutre en l'air. Désolé pour les termes, mais si jamais vous voulez vraiment vous mettre en l'air, de mettre un terme à votre vie, il y a d'autres solutions. Je n'encourage pas au suicide.
Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Dites-nous où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quels sont les... Merci beaucoup.
Quelles sont les perspectives ? Hélas, nous avons encore de la chance. Le texte n'a pas encore été débattu, ou tout du moins n'a pas encore été voté au Sénat. Malheureusement, s'il y a une procédure accélérée, nous n'aurons que deux navettes.
Oui, c'est ça.
Et malheureusement, depuis Sarkozy, nous savons que c'est l'Assemblée nationale a le dernier mot. C'est-à-dire que là aussi est la perversité de notre régime. Nous avons dépouillé, enfin je dis non, pardon. La République a dépouillé ses propres institutions qui devaient la protéger d'elle-même pour permettre justement à ce que celle-ci s'auto-mutile. On a déjà autorisé l'avortement. En 1974, ça devait être un outil exceptionnel. Quelques années plus tard, on l'a étendu. Maintenant, on demande le retrait de la vie d'autrui, parce que ce dernier sera un poids économique sur le dos de la société.
Quant à l'avortement, on l'a constitutionnalisé.
Aussi.
C'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 200 000 ou 300 000 avortements par an en France, et ce sont des assassinats d'enfants dans le sein de leur mère. Tout le monde sait comment ça se fait. On procède par aspiration, déchiquetage, destruction... épingle, enfin, c'est splendide, ça réjouit le cœur de Macron. Nos députés sont dans l'enthousiasme, et certainement tous les soirs, ils doivent regarder un film représentant l'assassinat d'un enfant dans le sein de sa mère, ça les réjouit. Et c'est constitutionnalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment républicain, quoi, complètement dans sa nature, dans sa structure. Et maintenant, c'est la mort du vieillard, la mort de l'infirme, la mort du malade, la mort de la... du dépressif. Je lis un de nos auditeurs. Bonsoir, avec le projet sur l'euthanasie, ne voit-on pas l'achèvement du projet Action T4 ? En effet, il se peut qu'une personne qui a une grande dépression ou une maladie mentale puisse demander à mourir, bien sûr. Les personnes qui ont un handicap peuvent se classer dans cette catégorie.
Tout à fait.
Nous sommes dans la finalité du projet Action T4 qui élimine les gens catégorie par catégorie.
Tout à fait. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, l'Action T4, c'était une opération spéciale menée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et même un peu avant, qui visait à éliminer les bouches inutiles du Reich. Effectivement, c'est de là d'où du terme même nazi qui est issu le terme euthanasie. Ce n'est pas pour rien qu'il faut se méfier justement de l'euthanasie, puisque d'un côté... Ce qui fait la beauté de l'être humain, même pour ceux qui ne sont pas croyants, je l'assume pleinement, je suis croyant, et si jamais je devais mourir un jour pour ma foi, c'est ainsi. Néanmoins, ce qui fait la beauté de l'homme, et même pour les plus grands athées, c'est notre capacité à aider autrui et à prendre soin des plus faibles. Au travers de l'élimination des handicapés, comme on a pu le voir ces derniers temps, notamment en Hollande, aux Pays-Bas, si vous préférez les termes plus récents, un enfant de 12 ans a été assassiné. Le terme n'est pas choisi de manière inadéquate. C'est véritablement assassiné parce que ce dernier avait un handicap lourd. À quel moment pensez-vous qu'un enfant doit mourir quand bien même il est handicapé? Ne pensez-vous pas que l'on peut permettre à ces enfants d'avoir une vie tout de même digne, malgré la souffrance, parce que leurs parents sont présents, qu'on les accompagne, qu'on les aime, qu'on les entoure de mille soins? C'est absolument scandaleux. Et on voit au travers justement, c'est d'ailleurs comme ça que je devais initialement conclure ma chronique initiale, avec une boutade qui n'est pas si drôle que cela, c'est que ce projet T4, ces assassinats à l'égard des handicapés, de manière générale, on parvient finalement à recréer cela, et nous nous retrouvons dans un État qui est non seulement fédéral, qui représente la grande Europe, comme le rêvait un moustachu, malheureusement, où tout ce qui malheureusement révulsait tout chrétien, tout musulman, c'est-à-dire la protection de la vie et sa destruction inutile, va être permise de nos jours, et ainsi concrétiser un projet qui est vieux quand même de plus de 80 ans, et qui est terrible. C'est-à-dire que nous allons nous déshumaniser au travers du retrait de la société des handicapés. Ces mêmes personnes qui justifient justement votre humanité, chers amis. C'est quand même scandaleux qu'on puisse permettre à ces gens à qui nous avons donné mandat pour représenter. Bien évidemment, la démocratie est factice, surtout en ce moment. Cette phrase n'est pas de moi, elle est issue d'un personnage fort détestable, le même qui a mis en place d'ailleurs l'opération T4. Rappelez-vous bien de cette phrase. Si la démocratie est factice, l'euthanasie, elle, est véritable et malheureusement présente désormais. Et si vos enfants ont été maltraités autrefois, je pense à vous, messieurs les députés, mesdames les députés et messieurs les députés, ces derniers qui ont subi quand même deux confinements auront bien des choses à vous reprocher, et le jour où vous serez malade, peut-être que ce seront eux qui actionneront cette fameuse piqûre, en vous regardant droit dans les yeux en disant « Memento Moris ». Oui, n'est-ce pas ? Il faut se rappeler de ce que vous avez fait. Ces enfants que vous avez brimés pendant deux années complètes, que vous avez obligés à piquer, à recevoir des injections qui n'avaient aucune utilité, ils ont des choses à vous reprocher. Et ce que vous avez voté là en ce moment se retournera peut-être contre vous dans 15, 20 ans, peut-être moins. Parce que, mine de rien, il ne faut pas oublier que parmi tous les députés, il y a quand même beaucoup de vieux. Et j'aimerais vous dire, à aucun moment, je n'aimerais être à votre place quand votre enfant sera devant vous en se disant « Mais papa,
avec
maman,
une petite seringue.
C'est pour votre bien. Vous avez l'air de tant souffrir. Après tout, ce n'est qu'un petit mauvais moment à passer. »
Merci, cher ami. C'est très bien. Oui, tout à fait. Puis, on ne leur souhaite pas, mais ça pourrait bien arriver, ce truc-là. Ça pourrait bien leur arriver.
Puis-je donner la parole à quelqu'un que vous reconnaîtrez peut-être, en fait, qui est plus célèbre par ce discours ? Alors aucun homme ne sera en sûreté. N'importe quelle commission pourra le mettre sur la liste des personnes improductives qui, dans leur jugement, sont devenues indignes de vivre. Il n'y aura aucune police pour le protéger lui, aucun tribunal pour venger son meurtre et pour amener ses meurtriers à la justice. Qui pourra alors avoir une quelconque confiance dans un médecin ? Il pourrait signaler un patient comme improductif et pourrait être alors donné des instructions pour le tuer. On ne peut s'imaginer la dépravation morale, la méfiance universelle qui s'étendra au cœur même de la famille si cette doctrine terrible est tolérée, admise et mise en pratique. Malheur aux hommes, malheur au peuple allemand quand le saint commandement de Dieu « Tu ne tueras pas » que le Seigneur a donné au Sinaï dans le tonnerre et les éclairs, que Dieu, notre Créateur, a écrit dans la conscience de l'homme au commencement, si ce commandement n'est pas simplement violé, mais sa violation est tolérée et exercée impunément.
Bravo.
C'est le célèbre sermon, en fait,
oui,
de Monseigneur von Galen.
Von Galen, c'est
justement
ça.
L'action,
tout à fait.
Bien sûr.
Mais malheureusement, il est d'une terrible actualité.
Ben, bien sûr, complètement. C'est exactement la même chose. Mais le malheur, c'est que nous n'avons plus aujourd'hui d'autorité morale, même religieuse, si il y a un ou deux évêques qui interviennent avec une voix un peu plus forte que les autres. Mais on est là à s'imaginer que peut-être les députés auront une bonne réaction et qu'au final, ils ne voteront pas la loi. On en est là. Au lieu de considérer la vérité des choses, c'est-à-dire qu'on a un régime qui en lui-même, dans ses principes, est totalement pervers. La notion de liberté, d'égalité et de fraternité avec des grandes majuscules, on sait où ça mène. Ça mène à la terreur. C'est une loi de l'histoire. Et donc là, c'est vraiment navrant de penser qu'il n'y a, oui, il n'y a plus d'autorité magistérielle suffisante pour s'opposer à de... Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Il faudrait rappeler que, de fait, la loi de Dieu, tout simplement, à des gens qui sont, il ne faut pas se tromper, nos députés à l'heure actuelle, c'est encore pour la plupart des gens issus des familles catholiques françaises. Hollande, il a fait son catéchisme, il a fait toutes les bonnes écoles catholiques, ce qui lui a permis de réussir sa carrière. Ségolène Royal, c'est la même chose. Tous, Macron, c'est la même chose. Ne parlons pas de la Brigitte, c'est Itou. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et en fait, ils bravent l'autorité de Dieu pour pouvoir manifester leur adhésion à un régime dont ils veulent la survie, parce que c'est leur seule raison d'existence. C'est terrible. C'est leur seule raison d'existence. Moi, personnellement, je le dis devant les auditeurs, devant ce micro, je regrette ce qui va se passer au mois de septembre. Macron va recevoir le pape. Le pape fera probablement une petite phrase pour expliquer qu'il faut respecter la vie depuis la naissance, enfin depuis l'origine jusqu'à la fin. Mais évidemment, il faudrait quelque chose de beaucoup plus fort. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus fort pour sauver notre pays, notre nation.
Si le pape avait le sens de l'humour, il lirait le discours de Monseigneur von Galen.
Exactement.
Dirait, mais ça n'a rien à voir.
Mais oui, il me semble d'ailleurs que le discours ne lui avait pas forcément très bien réussi à Monseigneur von Galen par la suite.
Oui, il a été arrêté en fait et on a exécuté ses plus proches collaborateurs tout en laissant vivre. Et en...
Tout à fait. Ce qui est terrible. Parce que c'est exactement
ce que les nazis s'y connaissaient en termes de.
Ah, d'horreur. Ah, bah ça.
Ah, mais ceux qui nous dirigent pareillement, hein, faut pas se tromper. La seule chose qui les retiennent, c'est uniquement les formes juridiques, c'est tout, pour le moment.
Et encore, ils s'en arrogent. Oui. Ils s'en arrogent parce que, mine de rien, introduire des notions mortifères comme l'avortement dans une constitution, on peut très bien aussi y ajouter les pires insanités. Je veux dire, dès lors que vous avez une majorité bien servile parce que vous leur promettez monts et merveilles...
Oui, bah, l'euthanasie, pareillement.
Pareil, quand est-ce qu'ils vont la rentrer dans la Constitution ? Et puis, moi, je vous propose aussi autre chose. Autorisons aussi la peine de mort à l'endroit de tout Français qui aurait le malheur de se défendre contre une agression.
Oui.
Hein, n'est-ce pas ? Puisqu'on autorise les meurtriers, les violeurs à vivre, tuons les innocents par paquet de mille. Soyons clairs dans nos projets.
Alors maintenant, il est clair que moi je trouve qu'on tient là une explication véritable, métaphysique d'une certaine manière. Elle va au-delà des premières réalités sensibles, une explication de la dérive générale de notre société. On se plaint, on dit mais il n'y a plus de jeunesse, la jeunesse n'obéit plus, les conducteurs n'obéissent plus aux... Il y a le refus d'obtempérer constamment, encore une fois de plus, il y a des gendarmes qui se sont fait rouler dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aucun lien social qui subsiste dans la société actuelle ? Mais c'est ceux qui nous dirigent qui emportent la responsabilité.
Parce qu'ils n'ont plus de morale d'abord.
Mais parce que pour eux, ils n'ont plus aucune morale. Leur morale, c'est leur réussite. Et leur réussite politique, la réussite de leur projet politique, c'est tout. Mais ils n'ont pour eux-mêmes aucune morale. La seule chose qui compte, c'est avoir le pouvoir.
Tout à fait.
Et par conséquent, cette immoralité s'est répandue dans toute la société. Dans toute la société. Elle en est malade à un point, mais inimaginable. La France est beaucoup plus gravement malade qu'on ne le croit. On fausse évidemment les statistiques, mais... ça, c'est habituel. Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, plus personne ne maîtrise le narcotrafic.
Non,
en France,
non.
Plus personne ne maîtrise le narcotrafic.
D'autant qu'il permet de juguler une population qui est suffisamment...
Je suis suffisamment informé pour savoir qu'il y a des villes entières qui sont complètement contaminées, mais avec l'accord en partie des autorités sociales. En tous les cas, une sorte de tacite complicité. Et puis c'est la même chose pour la prostitution, c'est la même chose pour la pédocriminalité. Pourquoi ça se répand comme ça à une telle vitesse? Mais pourquoi tout le monde semble-t-il être complice? Mais parce que de fait, la société vit là-dessus. Elle ne vit que là-dessus. C'est les seules normes qui subsistent. Et moi, je pense qu'on est atteint d'une maladie extrêmement grave dont on ne pourrait sortir que par une crise effrayante. Et la crise, elle vient. Alors, elle sera financière, elle sera économique. Plus personne ne veut l'envisager, mais elle vient. Ça y est, les experts commencent à dire que la dette est devenue insupportable. Et on le savait depuis longtemps. Moi, je l'écris depuis 10 ans, qu'elle deviendrait un jour insupportable. Et qu'à ce moment-là, un jour viendrait où la France serait acquia. Acquia. Mais bon, peut-être qu'il faudrait... C'est là-dessus que je voudrais essayer d'amener à la conclusion. C'est de se rendre compte à quel point nous sommes dépendants d'institutions qui sont en elles-mêmes perverses. Chers exauditeurs, il ne reste plus qu'une minute. Élie, avez-vous un petit mot pour conclure?
Non, je n'irai pas. Je n'ai plus rien à dire depuis que j'ai lu Mgr von Galen. Hein.
Oui, oui, c'est formidable. C'est formidable. Et vous
Je n'aurai qu'un encouragement, c'est à l'égard de nos prélats. C'est d'avoir le courage de Mgr von Galen, oui, de se lever contre... malheureusement, ces lois iniques, je dis bien ces lois au pluriel.
Oui, elles sont toutes iniques maintenant. Vous les prenez toutes, oui, toutes, y compris la loi sur la protection de l'enfance. Elle est d'abord mal rédigée, elle est mal fichue. Toutes les lois qui sortent des ministères aujourd'hui, comme toutes les directives, c'est pitoyable. C'est pitoyable.
J'ai trouvé un mot. Souhaitons-nous un roi guérisseur. Hein.
Exactement, un roi thaumaturge. Allez, bonsoir chers auditeurs, et nous nous retrouvons comme d'habitude dans une quinzaine de jours, et puis peut-être nous dans un mois, je ne sais. À bientôt, au revoir, et merci encore d'avoir été fidèles.
Vous venez d'entendre le libre journal de la réaction animée par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 30 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.